Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, bonjour, c'est le 24e de notre 11e saison et nous avons invité aujourd'hui Alix Soler-Alcaraz, bonjour.
Bonjour à vous et à vos auditeurs.
Vous êtes sur Carcassonne, vous travaillez sur Carcassonne essentiellement, mais vous êtes ce qu'on appelle premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste. C'est ça l'appellation exacte ?
C'est la bonne appellation.
Bon, parce que chaque parti a parfois un petit peu sa nomenclature différente. Bon, ça veut dire, pour employer les grands mots, vous êtes un peu le chef du Parti Socialiste dans ce département.
Oui, lourde si ça vous va comme ça, on ira ça.
Lourde responsabilité. Alors, au-delà de ces responsabilités politiques, mais c'est lié, on s'en doute, vous avez déclaré récemment que vous vous intéressiez, vous et d'autres évidemment, aux futures élections municipales de l'an prochain. Là, vous ne l'avez pas caché.
Tout à fait.
Et je crois que vous êtes parti sur un certain nombre d'opérations dans ce sens, pour préparer, et vous allez nous le détailler, vous nous expliquer un petit peu plus les choses. Ah, on parlera évidemment quand même, puisque vous êtes le boss du Parti Socialiste, de politique, plus ou moins politicienne, on ne peut pas l'éviter. On verra ça dans une partie seconde et peut-être troisième. Mais au démarrage, rappelons quand même la situation du PS aujourd'hui, parce que pour celui qui suit la vie politique, le PS, il y a 40 ans, était triomphant. Un président, une assemblée rose, introuvable, etc. Puis les choses ont évolué. Et puis aujourd'hui, on a une situation où, sur le plan national, c'est pas très très brillant, même si on va y revenir. Mais par contre, le Parti Socialiste est encore à la tête du département, encore à la tête de la région avec Madame Delga. Donc une situation qui est assez paradoxale. Vous sentez pas un petit peu de temps en temps écartelé, Monsieur Soler-Alcaraz ?
Alors, de moins en moins, pour être honnête, puisque, comme vous le disiez, c'est vrai qu'au plan national, le Parti Socialiste a eu des moments assez difficiles sur ces dernières années. On peut pas le nier, il revient de loin. Et c'est vrai qu'au plan local, on avait réussi, et c'est encore le cas aujourd'hui, à avoir des positionnements qui permettent d'agir, d'être en responsabilité sur des échelons comme la région et le département, comme des villes, et de mener des politiques au service des habitants. Mais au plan national, quand même, moi je tiens à dire que la situation s'est légèrement améliorée, si on veut être vraiment objectif, ces dernières années et ces derniers mois, notamment en termes d'importance, de nombre de parlementaires, de députés ou même de députés européens. Voilà, la vie politique, elle n'est pas, c'est pas un long fleuve tranquille. Je crois en tout cas qu'on a un chemin qui désormais est plus positif que ce qu'il ne l'était jusqu'ici.
Alors la dernière ou la plus récente opération qui peut vous rendre plus optimiste, c'est peut-être les européennes. Là, on a un PS qui s'est déjà, enfin un PS qui s'appelait pas comme ça, mais grosso modo c'est quand même la même mouvance et la même tendance, qui s'est bien requinqué là.
Oui, il y a eu, on a eu deux élections au plan national et européen sur ces derniers mois, les élections européennes d'une part, où nous avons doublé le nombre de députés européens, en passant, je crois, à 13 députés européens, et puis au plan aussi national, puisqu'on a là aussi doublé le nombre de députés à l'Assemblée nationale lors des dernières élections législatives, dans un contexte qui était objectivement très particulier, risques forts, hein, je le rappelle, hein, du Rassemblement national à ce moment-là, avec, je crois, aussi un fort enjeu de rassemblement des humanistes et républicains sur cette élection.
Oui, alors justement, après cette dissolution où on a cru, où certains ont cru et d'autres craint une vague du Rassemblement national, la gauche avait réussi, alors je dirais tant bien que mal parce que ça n'était pas sans heurts, réussi une sorte d'alliance qui s'est appelée la NUP ou la NUPES, non ?
Le nouveau Front populaire, vous voulez
oui,
dire
oui, 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 oui. Enfin, et chacun, chaque génération se succède avec un nom différent. Et bon, ce nouveau Front populaire qui a réussi, vous le dites, par exemple, à vous donner davantage de députés socialistes au Parlement français, pas seulement européen. Aujourd'hui, qu'en reste-t-il? On a envie de dire peu de temps après.
Je crois que la question, elle est surtout de quel est le chemin pour la gauche aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des débats nationaux qu'on a pu avoir ces derniers mois. Moi, je crois que en ce qui concerne le Parti socialiste aujourd'hui, c'est d'avoir une position à la fois d'affirmation de ce que sont les socialistes, leur sensibilité propre dans le débat politique national, d'être revenu aussi d'ailleurs au centre des attentions médiatiques, notamment lorsqu'il s'agissait de voter ou non la censure, mais de réaffirmer toujours l'envie et l'ambition d'être dans un rassemblement respectueux et sincère de la gauche. Donc ça, après, chacun a sa propre façon de voir les choses. À gauche, vous avez beaucoup de sensibilités différentes.
Oui, et c'est peut-être une des faiblesses de la gauche française. C'est pas nouveau, d'ailleurs.
Oui, peut-être. Après, moi, je crois que la politique, c'est aussi fait de femmes et d'hommes qui ont des convictions, des orientations politiques qu'ils défendent. Je crois qu'il faut placer l'enjeu d'intérêt général aussi à un moment donné au-delà, lorsqu'aux élections législatives, des citoyens qui se sentent plutôt de droite ont voté pour des candidats de gauche et de manière distincte aussi des citoyens de gauche qui ont voté pour des candidats de droite. Pour faire barrage, parce que ça a été à ce moment-là,
oui,
ce moment-là aussi
le nom. C'était une tactique clairement
vis-à-vis de l'extrême droite. C'est parce qu'il y avait des valeurs en commun qui dépassaient les propres partis politiques. Voilà, donc ça n'efface pas les différences, mais il y a des hiérarchies quoi sur les enjeux politiques. Donc c'est important de reposer aussi ces bases-là pour faire la politique. Il faut le faire avec sincérité, avec conviction. On peut assumer ses propres sensibilités, ses différences, mais tout en étant dans une démarche et dans un état d'esprit d'ouverture.
Oui, donc la biodiversité, pour vous, c'est souhaitable, y compris en politique.
Ah, mais la biodiversité, pour fonctionner, je pense qu'il lui faut de la diversité, voilà.
Oui, pour en revenir donc à cette notion donc où vous vous êtes rassemblés, ça a marché, mais à l'avenir, on a l'impression qu'on repartira pas sur des bases tout à fait identiques. Quel est votre ressenti là-dessus?
Au plan national, à gauche, bon, je pense que, enfin, on va pas se mentir. Effectivement, on constate toutes et tous, et d'ailleurs, ça a été évoqué par les principaux intéressés, que on a d'un côté, LFI, Jean-Luc Mélenchon, qui a fait part de sa volonté de présenter une candidature à la présidentielle. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que l'enjeu, la responsabilité pour le reste de la gauche, c'est d'ouvrir de nouvelles perspectives. Faire émerger pourquoi pas une candidature commune autour d'une plateforme commune avec des partis politiques qui auront envie de travailler ensemble avec respect et surtout l'objectif de proposer un projet de société. Et donc on se projette à 2 ans, mais il faut dès maintenant commencer à travailler.
Mais là justement, la candidature et l'affirmation de la personnalité de M. Mélenchon, est-ce que c'est pas justement ça une sorte de barrage à l'intérieur de la gauche?
Un frein, vous voulez dire,
oui,
peut-être,
un frein, oui,
sur,
oui.
Par rapport au reste de la gauche? Sans doute. Moi, je pense que il y a beaucoup de, moi, j'entends des électeurs de gauche autour de moi qui, effectivement, se désespèrent peut-être qu'une génération aussi ne laisse pas la place à une autre pour émerger. Donc, il en fait sans doute partie. Et puis, il y a la manière de faire de la politique aussi, où on a des différences, on les assume, la manière d'être un peu brutal dans le débat public. Bon, c'est pas quelque chose, moi, personnellement, qui m'intéresse. Voilà. Je me sens pas proche de ce genre d'attitude.
Oui. Et cette façon, alors, c'est un sujet, sans doute, de beaucoup de divergences entre vous. Cette façon de projeter sur la politique française la guerre entre Israël et la Palestine. Parce que, il y a beaucoup, de temps en temps, ça achoppe vraiment sur des prises de position.
Oui, non, mais enfin voilà, moi je vais pas rentrer dans les débats nationaux, honnêtement, hein, mais ce que je voudrais dire moi sur ce sujet, c'est que comme tout humaniste, je pense, je suis choqué de voir la manière dont les choses se passent en Israël et Palestine, choqué d'avoir vu les attaques du 7 octobre, choqué de voir aujourd'hui ce qui se passe à Gaza, et je pense qu'un peu de modération ferait pas de mal dans le débat public. Maintenant, de dénoncer aussi, ben voilà, les violences d'où qu'elles viennent, et quand il y a des gouvernements qui sont clairement, voilà, dans une démarche de violence. Hein, je parle notamment du gouvernement israélien. On peut le critiquer. Après, voilà, ça, je pense que c'est important d'être mesuré quand même dans ce débat public et de faire attention aux mots que l'on emploie et aux formules que l'on emploie.
Oui, justement, être mesuré. Mais est-ce qu'il est facile d'être mesuré quand on connaît la Palestine, enfin, l'inimitié répétée, récurrente qu'il y a entre ces deux peuples qui devraient coexister, mais qui...
Mais c'est là où
qui s'affrontent continuellement.
Moi, je pense que justement, là, la communauté internationale doit jouer son rôle aussi. C'est pas une question de laisser deux peuples s'entretuer entre guillemets.
On ah oui, pas laisser y a même
un
pas
territoire où
ce
soit dans le monde dans cette
ça.
Situation. Donc, je pense que la France, elle doit porter une parole forte dans ce domaine, et ça vaut pour le Proche-Orient, mais comme dans d'autres endroits dans le monde où il y a des conflits et qui nous bouleversent, et sur lesquels les civils paient toujours le prix fort hein, de ces conflits.
Mmh. Oui. Alors, sur le plan donc de la politique extérieure, finalement, parce que c'est de la politique extérieure, est-ce que quand même, un tout dernier mot, on essaie de... Bon, vous le dites, il faut dénoncer, il faut critiquer, mais est-ce que vous avez le sentiment que ça sert à quelque chose et qu'on a véritablement un pouvoir?
Ça, c'est la question de la diplomatie et de la politique internationale.
Parce que les États-Unis ont un pouvoir, oui, ne serait-ce que par leur force militaire et la livraison d'armes, etc. Est-ce que la France a encore un pouvoir dans cette région du monde?
Moi, je répondrai plus globalement. Je pense que la parole publique, elle compte. Elle compte de l'échelon le plus local à l'échelon le plus large et notamment international. Et quand on voit justement, par exemple, un Donald Trump ou un Elon Musk avoir une parole publique grave avec des conséquences sur la vie des gens, eh bien, on se rend compte que oui, ça compte et ça, chaque parole a un effet sur le terrain. Donc, la politique, c'est aussi de la parole, c'est des actes, évidemment, au plus proche, dans la vie quotidienne, mais c'est aussi des discours et des paroles qui permettent de faire avancer ou reculer des enjeux de société.
Mmh. On marque, Alix Soler Alcaraz, une première pause. Et là, dans une seconde partie, on va entrer sur le local et notamment sur votre candidature annoncée pour la mairie de Carcassonne.